Ce dont je vais vous parler, voilà, n'est pas un travail universitaire. Je suis moi-même bibliothécaire et simple pratiquant depuis longtemps maintenant, hein, 86, donc ça commence à remonter, pas loin de 30 ans. Ça fait suite à des réflexions personnelles que j'entretiens depuis pas mal d'années, même si la formalisation est très récente. Voilà, donc c'est aussi une manière un petit peu pour moi de mettre ces idées à l'épreuve, de les confronter à vos réactions. Et voilà, allez, vous aurez 10 minutes pour me dire ce que vous en pensez. Alors, en fait, parmi toutes les choses qu'on sait du jeu de rôle, il y a le fait qu'il s'agit d'un jeu de décision. La question fondamentale qui est posée par tout meneur de jeu, étant donné un certain espace de liberté pour les joueurs, c'est le célèbre « bon, que faites-vous ?» Voilà. Et cette question qu'il adresse constamment aux autres, il se la pose évidemment à lui-même. Sachant ça, pas mal de gens ont cherché à comprendre finalement les motivations des joueurs pour répondre à cette question, mais des motivations qui ne sont pas forcément évidentes, qui peuvent être des motivations un peu cachées, voilà, pour les joueurs, pour le meneur, pour savoir finalement qu'est-ce qui guidait leur logique de prise de décision. Alors, à la fois pour les comprendre, mais aussi pour les anticiper, alors que ce soit dans un but purement scientifique ou dans un but au contraire assez pratique, pratique comme la réussite de la partie tout simplement, hein, ou la création d'un jeu ou d'un scénario adapté à telle ou telle catégorie de joueurs en fonction du plaisir dont on imagine qu'ils vont en retirer. Alors, les manières les plus simples de procéder pour répondre à ces attentes, en fait, c'était de jouer grosso modo sur deux leviers à l'origine, hein, des choses extrêmement extrêmement basiques. De jouer déjà sur le genre littéraire et ses modulations, hein, bien sûr. Quand on sait qu'on a en face de soi des gens qui sont des fans de vampires, on va pas forcément leur faire le même scénario qu'à des gens qui sont fans de space opéra. Hein. C'est bête comme chou. Voilà. Et puis, de jouer aussi sur le degré et la nature de la simulation. Voilà. Qui est évidemment un levier classique. Pour ceux qui ont déjà testé les deux, vous devez bien vous rendre compte que faire le même scénario en se basant sur les règles d'un D6 système ou sur les règles de Rollmaster, c'est pas pareil. Voilà. Ça rend pas exactement la même chose. Hein. D'ailleurs, l'occasion de s'apercevoir que le système, au-delà d'être un outil de simulation, est un outil profondément narratif. Alors, de manière générale, évidemment, c'est l'intuition du meneur de jeu, hein, qui permet de faire tout ça. Bon, la connaissance de ses joueurs, de sa table, comme on dit, même si la table en soi fait pas vraiment partie de la définition du jeu de rôle. Mais au service de ces démarches évidemment intuitives, il est possible d'imaginer des descriptions de catégories d'attente avec l'espoir de s'en faire une représentation suffisamment exacte pour qu'un jour on puisse établir, disons, une sorte de carte plus ou moins précise, qui nourrirait les réflexions à la fois scientifiques, mais aussi simplement des joueurs sur leurs pratiques, ou des professionnels du jeu pour créer plus et mieux. Alors, à ce jour, il y a plusieurs théories qui ont été imaginées, en particulier celles qui ont le plus fait florès, je pense, au cours du temps, sont celles qu'on trouve sur le site américain The Forge. Alors évidemment, pour en prendre connaissance, il faut lire de très longues pages de discussion en anglais sur le site. Il y a un résumé qui est pas mal fait sur Wikipédia. Je vais vous dire trois mots, hein, de ce qui s'est pensé. Vraiment trois mots. Ça part en 80 de quelqu'un qui s'appelle Jeffrey Johnson, qui cherche à décrire la manière de jouer et qui dit, bah voilà, pour moi, il y a deux axes. Alors, il y en a un qui est l'axe de la simulation tactique et qui va jusqu'à l'interprétation, voilà, parce qu'on est plus simulation tactique, plus interprétation. On retrouve un petit peu ce qui s'est dit tout à l'heure, hein, aux origines du jeu. On va du pion vers le développement de la personnalité. Ça reprend assez cette idée. Et le deuxième axe, c'est est-ce que je le fais pour moi ou est-ce que je le fais de manière altruiste pour les besoins du groupe. Voilà, hein, égoïste ou pas. Bon, c'est une première idée, et finalement la conséquence pour son auteur de cette théorie, c'était que en adoptant une position qui serait à mi-chemin sur chacun de ces deux axes, dans la création du scénario, on avait toutes les chances de plaire au plus grand nombre. Voilà. Donc pourquoi pas ? Alors il a fallu attendre quand même un certain temps avant que d'autres théories, peut-être plus abouties, se développe, notamment à la fin des années 90. Il y a un modèle qui commençait à exister, qui était le modèle LDS, donc en français, hein, ludique, dramatique, simulation. Chacun y est allé de son petit triptyque ou de son petit quadriptyque pendant un certain nombre d'années. Voilà, on a trouvé des choses comme World Story Challenge. Hein, je vous fais pas la traduction, je vous laisse imaginer les axes que ça présuppose. Gamist Simulation Drama, Drama Modeling Formal Rules, Character World Story Games, 4, wow. Etc. On finit. Je dirais à stabiliser un petit peu les choses vers 98 avec les travaux de quelqu'un qui s'appelle Ron Edwards et la théorie dite GNS en anglais, Gamism, Narrativism, Simulationism. Français, ça donne LNS, hein, Ludisme, Narrativisme, Simulationisme. Et qui, voilà, globalement détermine trois axes pour ces réflexes, on va dire, des joueurs. Dans le cadre du jeu, donc plaisir ludique lié à la réflexion tactique, à la recherche du succès, plaisir de créer une histoire mémorable et plaisir d'imiter la réalité ou de la simuler par des règles. Dans la forme la plus aboutie de cette théorie, qui s'appelle le Big Model, on utilise une espèce de graphisme imbriqué. Pour identifier les phénomènes qui déterminent toutes les attentes des joueurs, mais aussi pour permettre aux meneurs et aux créateurs de jeux de les anticiper et de s'organiser pour y répondre. Alors, ça donne, en gros, contrat social, exploration, qui est en fait la forme locale du contrat social, ouvrez les guillemets, hein, contrat social, culturellement assez américain dans la manière de dire, agenda créatif, qui va regrouper tout ce qui dérive donc de l'acronyme précédent, l'ENS, les techniques mises en œuvre pour y aboutir, et puis ce que l'auteur appelle les éphémères, qui sont en fait toutes les petites situations de jeu par lesquelles finalement tout ça vient à s'incarner. Voilà. Alors, mon propos, là, je suis toujours fini avec mon introduction, c'est pas de vous expliquer ça dans le détail, c'est de vous proposer finalement un modèle un peu différent, qui s'écarte de celui-là, pas forcément pour le remettre en question, hein, mais pour simplement voilà, présenter quelque chose de différent, et mettre en lumière éventuellement des phénomènes qui restent inapparents, quand on se limite entre guillemets au modèle, au big modèle américain. Alors, j'y suis allé de mon propre acronyme, évidemment, parce que ça simplifie les choses entre guillemets. Le modèle que je propose, c'est le modèle SICE. Vous verrez qu'il y a une évolution possible dans l'acronyme du modèle. Alors, ce sont les initiales de quoi ? Sociabilité, identification, créativité, expérimentation. Alors, on va prendre les quatre dans l'ordre. La sociabilité, tout d'abord. Le modèle américain, il est intéressant, c'est vrai, parce qu'il établit un lien de subordination entre des attentes qui sont situées en amont et à l'extérieur du jeu et des attentes qui sont à l'intérieur de lui. Notamment l'idée du contrat social qui regroupe les raisons pour lesquelles un groupe de joueurs va se former. Alors là, pour le coup, j'ai une approche qui est assez comparable. Vous imaginez un groupe de joueurs, vous vous dites bien qu'ils diffèrent tous par leur situation relationnelle. Voilà, hein, si je prends un exemple très bête, Pierre est lycéen, il est venu jouer parce que c'est l'ami de Paul, qui est dans la même classe, simplement pour passer du temps avec lui, mais qui s'ennuie très vite. Il y a Myriam qui est plus jeune que Paul et qui s'entend pas vraiment avec lui, mais ils veulent faire plaisir au meneur de jeu, etc., etc. Vous décrivez l'intégralité de la situation, vous aboutissez finalement à la création d'un groupe, in fine. Chaque groupe va être différent et les relations qu'ils ont indépendamment de leur goût et couleur en matière strictement ludique vont être des déterminants forts de tout ce qui va se passer à l'intérieur de la partie. Ça a l'air d'une évidence, mais bon. Ça va mieux en le disant parfois. Voilà. Donc, le terme de sociabilité renvoie non seulement aux éléments relationnels basiques qui vont autoriser la formation du groupe, un groupe qui va être caractérisé à un moment donné, puisqu'il faut bien en passer par là, par l'intention de jouer ensemble, mais aussi par tous les autres phénomènes psychologiques et sociologiques extérieurs au jeu, donc qui vont conditionner la pratique. Incidemment, évidemment, la sociabilité, entendue comme ça renvoie à l'impact que ces différentes attentes peuvent avoir, donc ces attentes hors jeu peuvent avoir sur la nature du jeu proposé et éventuellement même sur sa logique de création. C'est également là qu'on trouve un certain nombre d'éléments qui peuvent servir de passerelle entre le simple fait d'avoir envie de jouer ensemble et d'avoir envie de jouer à un jeu de rôle ensemble, ce qui n'est pas du tout la même chose. Donc ces relations et ces contraintes sociales associées à vos goûts et couleurs ludiques respectifs vont faire que vous vous orienterez vers une activité collective, par exemple, de type plutôt jeu apéritif, ou voilà d'une demi-heure, hein, ou un jeu, moi j'appelle ça un jeu banquet, comme un jeu de rôle de 7 ou 8 heures, sachant que le jeu de rôle peut parfaitement répondre aux deux types d'attentes, quand on sait que sont pratiqués depuis maintenant quand même d'assez nombreuses années les jeux dits à sketch ou en table ouverte, tournante, dans les conventions. Donc, on est face à une activité qui aussi tend de plus en plus à s'adapter à des pratiques et à des modes de sociabilité auxquels il était au départ, il y a 40 ans, complètement inadapté. Voilà, donc c'est un élément qui peut nourrir la réflexion sur les formats de jeu, sur les liens avec les autres jeux de société. En se combinant donc à la question des centres d'intérêt plutôt créatifs et identificatoires qu'on verra après. Donc là, je dirais que la présentation elle est importante parce que entre le fait d'avoir, alors j'ai pas de PowerPoint pour vous le montrer graphiquement, mais entre le fait d'avoir un système à l'américaine imbriqué avec des crochets, voilà très informatique entre guillemets. Et le fait d'avoir une forme qui met les choses un petit peu à parts égales, ben on obtient, dans le second cas, qui est plutôt celui que je défends, une idée qui est celle que chacun des éléments va nourrir les autres. Voilà. Ça, c'est relativement important, je pense. Enfin, quoi qu'il en soit, sociabilité, on finit par aboutir à l'idée que les gens vont se regrouper pour faire un jeu de rôle. Parfait, on attaque. Identification. Alors, c'est l'élément, bien sûr, qui va regrouper tout l'ensemble d'attentes et de centres d'intérêt qui permettent de dresser un portrait du joueur en fonction de quelques paramètres principaux. Alors moi, j'en ai dégagé trois, essentiellement. L'intensité, c'est finalement à quel point l'identification est importante pour le joueur. Est-ce que le personnage n'est qu'un support de jeu? Ou est-ce que je vais m'investir affectivement dans son interprétation? Le style, en classique, à quelle couleur littéraire de personnage et d'univers je vais être sensible? Et le rapport à soi. C'est plus important qu'on ne croit, le rapport à soi. À quel point ai-je besoin de projeter une part plus ou moins grande de moi dans mes personnages, ou au contraire, de faire l'expérience de l'altérité. Alors, les conséquences de chaque point sont importantes. L'intensité, bien sûr, vous avez compris que c'est ce qui allait être déterminant par rapport à l'appétit de roleplay, hein, comme on dit. Voilà. Plus ou moins réaliste, voilà, réalisme qui donne lieu à des situations qui mettent plutôt la psychologie et les motivations des personnages en valeur, qui développent la cohérence interne de la fiction, dont les personnages, en l'occurrence, sont vraiment les héros plutôt que le joueur, et l'implication émotionnelle qui va favoriser la sincérité de la démarche et le désir d'authenticité du joueur, et qui jouera sur la vie propre, finalement, l'autonomie du personnage. Évidemment, à l'inverse, si vous avez une intensité faible dans ce domaine, vous vous retrouverez avec un personnage qui ne sera juste qu'une projection ludique de centre d'intérêt du joueur. Notamment, on retrouve là la question du ludisme. Hein. Sans pour autant d'ailleurs altérer forcément le plaisir du joueur à prendre part à une fiction collective, hein. C'est pas, ce sont des choses qui sont distinctes. C'est seulement que voilà, son intérêt va résider dans la création et dans la participation plutôt que dans l'identification. Voilà, et qui se sentira finalement plus à l'aise comme joueur, interféré avec le cours des choses comme Deus Ex Machina derrière le personnage de papier. L'implication émotionnelle est évidemment plutôt envisageable comme un exhausteur de goût, hein, je dirais. Voilà. Elle peut être plus ou moins présente dans l'alchimie personnelle du joueur, qui peut privilégier une distanciation constante. Voilà. Notamment, on va trouver ça chez des joueurs qui, sans raison particulière, vont être dans le refus d'utiliser la première personne, voilà, etc., d'être toujours dans une distanciation relativement forte, d'être moins intéressé par l'historique du perso que par ses performances, voilà, d'être pas forcément très attaché à sa survie. Bon, le style, c'est une évidence, hein, ça regroupe les goûts et couleurs auxquels les joueurs sont sensibles, la palette de rôles aussi, auxquels il est en mesure de s'intéresser, tous les archétypes, métiers, caractères, etc. Et finalement, ça résume tout bêtement la question classique du quel type de personnage avez-vous envie de jouer, hein. Et puis ça autorise évidemment les classements par genre, classements par genre littéraire, notamment. Rapport à soi, c'est peut-être plus intéressant dans la mesure où c'est une idée qui est généralement assez peu analysée. Alors, on retrouve ça quand on discute avec des joueurs qui vous disent « Au début, je jouais des personnages qui me ressemblaient beaucoup, et puis maintenant, j'ai envie de varier un peu les plaisirs. » Voilà. Alors, c'est un élément important parce que il favorise la tendance exploratoire. Voilà. Hein. Ça favorise une forme d'implication aussi. Et puis... comment dire, c'est quelque chose qui va déterminer le choix de jouer des personnages, par exemple, très caricaturaux. Alors ça arrive de temps à autre, quand on a envie d'être complètement second degré, de pas du tout être dans le réalisme, mais en même temps d'explorer quelque part une partie de soi qu'on a tendance à pas mettre en valeur le reste du temps. Voilà. Alors, une petite parenthèse, dans le modèle que je propose, il n'est pas question de ludisme. Alors, on peut s'en étonner, parce que le ludisme, c'est un phénomène qu'on observe et qui est relativement, entre guillemets, important dans les pratiques. En fait, moi j'ai plutôt eu le sentiment que le ludisme c'était un phénomène extérieur qui était susceptible de faire l'objet d'une sorte de division, de dilution à l'intérieur des autres éléments. J'ai aussi l'impression que on pouvait spécifier des choses qui appartenaient en propre au jeu de rôle et puis des choses qui n'y appartenaient pas, finalement, du tout. Voilà. En fait, concrètement, moi, je dissocie les choses de manière suivante. Pour moi, l'appétit de challenge, de victoire, c'est des tendances qui peuvent s'intégrer à un jeu collaboratif et non compétitif, hein, je suis d'accord, pourvu qu'elles ne prennent pas le dessus sur ce qu'en fait la nature. Alors, sans forcément trahir l'esprit, ça relève d'appétits qui appartiennent plutôt au domaine voilà, qu'on a vu avant, c'est la sociabilité, quelque part, toute la partie psychologique de la sociabilité. C'est du relationnel, le besoin de dominer, ou le besoin de challenge, de succès. Enfin, ce sont des choses qui tendent à faire glisser le jeu de rôle vers le jeu de société classique, compétitif. Voilà. Avec, on retourne finalement à cette très vieille définition du jeu de rôle qu'on retrouvait, je crois, dans le Larousse, encore en 89, qui faisait en gros du meneur l'adversaire des joueurs. Voilà. Bon, je pense qu'on a évolué depuis. En plus, le ludisme, c'est quelque chose qui a tendance à prendre les personnages un petit peu en otage. Alors, les personnages, puis l'histoire, hein, aussi au profit de l'ego du joueur. Voilà. Mais bon, quand elles sont tempérées, ça peut rendre service à la partie, en renforçant les chances de survie individuelles, par exemple, ou collectives parfois, en donnant une motivation forte aux personnages, ce qui est aussi une manière de les caractériser. Voilà. Donc ça peut rentrer en compte dans le processus d'identification. Puis également, ça vient nourrir l'intérêt pour une partie de la création, qu'on verra après, parce que ça met souvent l'accent sur la mécanique de jeu qu'il faut maîtriser pour obtenir le succès espéré. Et donc évidemment, la maîtrise, minimaxeur, gros bill, ça, on connaît bien vers où ça va. Mais ça peut aussi encourager certains joueurs à en faire plus en annexe des sessions de jeu. Donc, par différentes formes de contributions pour maintenir le rôle central, finalement, du personnage et donc du joueur au sein du groupe. Ça joue un rôle indirect dans l'expérimentation, au sens où l'expérimentation, ça se nourrit aussi du besoin de dépassement acquis à un moment par le joueur, que la toute-puissance, dans le cadre d'un jeu de rôle, c'est absolument vain, finalement. Hein. Voilà. Donc, si on voulait s'amuser à faire apparaître le ludisme dans le sigle, on pourrait le transformer de SICE en mettant entre crochets entre le S et le I pour faire un slice. Voilà. Ça passe bien en américain, puisqu'on a dit tout à l'heure que les Américains aimaient faire des acronymes qui pètent un peu. La création. La création comme centre d'intérêt, je crois que c'est vraiment essentiel à la pratique du jeu de rôle. Ça se déploie aussi bien en cours de partie que entre les sessions de jeu. Et ça, c'est une caractéristique de l'activité qui est assez importante. Ça rencontre de deux phénomènes. En gros, je vous la fais courte, création fictionnelle, création technique. Je ne vais pas analyser ce que chacun d'entre vous connaît par rapport à ça, hein. C'est assez évident. C'est quelque chose que le meneur peut repérer chez ses joueurs pour améliorer finalement les parties, mais aussi pour suggérer à certains joueurs des pistes d'enrichissement. Alors, insister sur les centres d'intérêt créatifs, c'est aussi une manière de valoriser le jeu de rôle auprès d'interlocuteurs qui ne comprennent pas forcément le plaisir de l'identification. C'est un loisir, il faut se rappeler de ça, dans les prolongements culturels, sont finalement extrêmement profonds. Donc, je vous en cite quelques-uns, qui sont classiques, mais qui méritent d'être rappelés. C'est quand même un outil de lecture sous des formes extrêmement variées. C'est quelque chose qui va vers le dessin de portraits, de cartes, l'écriture de scénarios, de récits d'aventure, la constitution de playlists d'ambiance, la création d'accessoires, la recherche tout bêtement. La relation à l'histoire, même parfois aux mathématiques, précisément quand on veut faire de la création technique, ça peut aider. La maîtrise de temps à autre des nouvelles technologies, et pourquoi pas quand on fait du GN, l'escrime médiévale. Hein. Voilà. Donc en fait, le jeu de rôle, c'est bien connu pour offrir à chacun l'occasion de développer des compétences qui sont bien au-delà de ce à quoi ouvrent les autres loisirs, même si le fait que offrir de telles occasions ne garantit pas qu'un joueur donné ait la curiosité de les saisir et d'explorer tous ces domaines. En tout cas, les centres d'intérêt créatifs sont très importants dans la définition des pratiques, ça c'est sûr. Enfin, l'expérimentation. Alors, expérimentation, c'est quoi? C'est peut-être un point assez singulier de cette présentation. Pour moi, c'est une réflexion qu'on ne voit pas tellement développée dans les écrits sur le jeu de rôle auquel j'ai eu accès, en tout cas à titre personnel. Ça concerne le fait que, comme dans beaucoup de fictions, il est fréquemment un moyen de dire quelque chose du monde réel. Comme jeu, ça offre la possibilité d'adopter des identifications stratégiques qui permettent de proposer une interprétation d'une réalité très différente de la sienne et d'en discuter avec les autres. Alors, je suis un homme, et si je jouais un personnage féminin? Tout bête. J'ai 40 ans, je suis bibliothécaire, et si je jouais un adolescent noir dans la Louisiane de 1930? J'expérimente. Dans un autre registre, ça permet de s'interroger sur les conséquences de nos choix. Alors, on est parfois confronté à des questions éthiques, tout bêtement. Hein. Voilà, qu'on revienne à la théorie des alignements de Donjons et Dragons dont on parlait tout à l'heure, qui à sa manière nourrissait cette réflexion sur les questions éthiques, ou qu'on soit simplement, sans parler de ça, face à des choix cruciaux qui poussent à s'interroger à titre personnel sur la valeur de la vie, sur la manière de conduire la vie d'un personnage, sur tout ce que ça peut impliquer aussi de réalisme, de ne pas se ruer la tête la première dans le scénario, mais de se montrer cohérent par rapport à ce qu'il est, quitte à obliger le meneur à improviser 8 heures d'affilée. C'est méchant, mais néanmoins. voilà. Enfin... Il y a des rôles en plus qui prédisposent, notamment les rôles politiques, les rôles cléricaux, toutes les magistratures, voilà. Et aussi un rôle qui est évidemment, ça c'est assez drôle, très rarement choisi par les joueurs, généralement en raison de leur âge, qui est un statut d'autorité particulier, qui est le rôle parental. Alors, expérimentation, ça va aussi dans un autre sens, qui est l'expérimentation des questions scientifiques. Je crée une série de règles sur la gestion de la santé. Je m'interroge un peu sur le réel. Je simule des interactions humaines, des tâches techniques, cognitives. Je m'interroge forcément sur ce qu'il en est dans la réalité. Et je fais le choix de m'en écarter ou pas, pour telle ou telle raison. Voilà. Et pour moi, ces exemples types-là sont en fait que des manifestations particulières d'un principe qui est beaucoup plus vaste et qui les englobe intégralement, et qui, à mon avis, fait qui fait une partie de l'attachement que les rôlistes peuvent avoir pour leur loisir. C'est le fait que le monde, tout le monde, l'intégralité, soit globalement une page blanche, et que l'acte fondateur de toute réalité soit entre vos mains. Ça renvoie conjointement à la notion de toute puissance même qu'on pourrait qualifier de démiurgique, et à la responsabilité qui s'y rattache. Voilà. Le jeu devient, en fait, sous des formes assez discrètes, un outil de confrontation au monde et un support d'expérience de pensée. C'est ça qui fait pour moi de l'expérimentation l'ensemble des attentes scientifiques et philosophiques des joueurs. Et ça forme, à mon sens, un horizon extrêmement singulier de l'expérience rôliste, d'autant plus que le jeu de rôle a la particularité de donner concrètement aux joueurs les moyens de profiter de ça, contrairement à la littérature, qui vous fournit juste la page blanche. Voilà. On pourrait lui associer le même niveau de liberté, en fait c'est un petit peu différent. Alors, en fait, les moyens qui sont mis à disposition du joueur par le jeu, moi j'en relève deux essentiellement. Hein. Premier moyen, pour moi il est relatif à la notion d'évolutivité ou d'adaptabilité du jeu. Faut se rappeler ici que le jeu de rôle, l'une des définitions qui a cours depuis quelques années, le rapproche énormément du jouet. Alors peut-être vous avez vu passer ça. L'idée, c'est que c'est quelque chose de complètement infini et de librement adaptable. Que ce soit strictement précisé dans les règles ou que ce soit impliqué par 40 années d'habitude, c'est quelque chose qui est bien ancré dans les pratiques. Vous avez un jeu entre les mains, vous en faites ce que vous voulez. Et enfin, il y a une matérialisation, en général par la fiche de personnage, mais potentiellement par tout ce qui pourra en tenir lieu, hein, une figurine, un pion, un dessin, la fiche de personnage, c'est pas un truc qui est totalement voilà, figé, qui se manifeste au final, quand on réfléchit un peu, comme un dispositif ontologique, c'est-à-dire comme un dispositif qui décrit ce qu'est localement un être en soi dans la réalité du jeu. Donc ça, ce sont des choses qui supportent une expérimentation qui est de nature, en fait, fondamentalement métaphysique et philosophique. Voilà. Et je pense que tout ça, je conclue en trois mots, pour ne pas que nous débordions, implique un rapport au jeu qui permet de le comprendre comme un système de liberté à trois degrés. Pour moi, le premier degré, c'est le degré qui est commun à tous les jeux. C'est entre guillemets la liberté hors jeu, la liberté de jouer. Hein. Vous avez connaissance plus ou moins de ce qu'on a dit Roger Caillois, j'imagine. Liberté dans le jeu, que ce soit choix guidé d'un alter ego, liberté de choix très grande, même en fonction des paramètres locaux. Infinitude du jeu, liberté d'adaptation, comme je viens de le dire. Mais aussi liberté par le jeu, et j'en terminerai avec ça, qui est vécu comme une occasion structurée de faire des expériences fictionnelles individuelles ou partagées, d'utiliser le jeu comme outil de connaissance du monde et comme cadre d'une liberté métaphysique dont, à mon sens, je crois voilà, qu'elle caractérise profondément la nature de l'activité au point d'expliquer les sentiments d'un certain nombre de joueurs à son sujet et l'orientation de leur pratique. J'espère ne pas avoir été trop obscur.
Bonjour. Est-ce que vous pouvez véritablement utiliser la même théorie et le même système pour le meneur de jeu que pour les joueurs, en prenant en compte que leur expérience est fondamentalement différente à la fin de jeu là.
J'ai réfléchi, je ne vois pas ce qu'il interdirait, très honnêtement. Pour moi, si on prend les éléments que j'ai cités, on va trouver à l'intérieur de chacun des manifestations qui sont susceptibles effectivement d'être spécifiques à chaque rôle. Ça, je suis d'accord. Après, recourir à un modèle différent en fonction du rôle, alors, pour moi, pas vraiment. Je pense plutôt que chaque rôle va spécifier des manifestations à l'intérieur de chaque élément. Je ne sais pas si je suis assez clair. En gros, si la créationnite aiguë prend le meneur, forcément ça ne va pas s'exprimer de la même manière puisqu'il ne va pas avoir le même rôle que la créationnite aiguë du joueur vu que le joueur ne va pas être en charge du scénario. Exemple basique, hein. Voilà. Mais en revanche, il pourra y avoir une contribution tout à fait partagée dans la création de règles. On parle de débriefing. Le nombre d'heures moi, que j'ai pu passer à débriefer justement des parties avec des amis en relisant les règles en disant non mais t'as vu là comment ça a pas marché quand on a fait, t'as vu les règles de chute, ah là là, un des 6 par 3 mètres, oh là là, et on pourrait pas changer ça, oh là, ben voilà, on crée ensemble des règles quel que soit le rôle finalement qu'on adoptait au sein de la partie. Et c'est un exemple basique, mais je pense que c'est valable pour l'ensemble des éléments que j'ai cités.
Désolée.